D'un mot, Mademoiselle de la Villaudrie venait de fixer irrévocablement sa destinée. Et elle le savait. Elle avait confiance de l'effroyable témérité de sa détermination. Une voix s'était élevée du plus profond d'elle-même pour lui crier que son honneur, sa vie, toutes ses espérances ici-bas étaient l'enjeu de cette suprême partie. Ce que dirait le monde au lendemain de sa fuite, elle le prévoyait. Elle serait perdue, elle n'aurait à attendre, à espérer de réhabilitation que de Daniel. Si encore elle eût été, comme autrefois, sûre du cœur de cet élu de sa pensée. Mais les insinuations perfides de la comtesse Sarah, mais les impudentes affirmations de Sir Tom avaient fait leur œuvre et altéré sa foi. Depuis bientôt un an que Daniel était parti, elle lui avait écrit tous les mois, et elle n'avait reçu de lui que deux lettres par l'intermédiaire de M. de Brévent. Et quelles lettres ! Bien polies, bien froides, et sans presque un mot d'espoir. Si Daniel, à son retour, allait se détourner d'elle. Et cependant, plus elle réfléchissait, et avec cette lucidité étrange que donne l'approche d'un événement décisif, plus elle se pénétrait de l'inéluctable nécessité du parti qu'elle prenait. Oui, elle allait affronter les périls de l'inconnu, mais c'était pour se dérober à des dangers qu'elle ne connaissait que trop. Elle se confiait à un homme qui était presque un étranger pour elle. Mais n'était-ce pas l'unique moyen d'échapper aux outrages du misérable qui était devenu le commensal, l'ami et le conseiller de son père ? Enfin, si elle sacrifiait sa réputation, c'est-à-dire l'apparence de l'honneur, elle sauvait la réalité, l'honneur même. Ah, n'importe. Tant que dura la journée du mercredi, on put la voir errer, plus blanche qu'un spectre, à travers l'immense hôtel de la Villaudrie. Elle disait adieu à cette chère maison, toute peuplée des souvenirs de ses 18 ans où elle avait joué enfant, où la voix de Daniel avait fait battre son cœur, où sa sainte mère était morte. Et le soir, à table, de grosses larmes roulaient silencieuses le long de ses joues, pendant qu'elle contemplait la sérénité stupidement triomphante de M. de la Villaudrie. Le lendemain, cependant, le jeudi, dès le matin, ainsi qu'il avait été convenu, Mademoiselle Henriette se plaignit de se sentir très souffrante et le médecin fut appelé. Il lui trouva une fièvre violente et lui ordonna de garder le lit. C'était la liberté qu'il donnait à la pauvre jeune fille. Aussi, dès qu'il fut parti, elle se leva, et tel qu'un mourant qui prend ses dispositions dernières, elle se hâta de tout mettre en ordre dans ses tiroirs, triant ce qu'elle désirait garder, brûlant tout ce qu'elle voulait dérober à la curiosité de la comtesse Sarah et de ses complices. M. de Brévent, lui ayant recommandé de ne pas emporter ses bijoux, elle les laissa, à l'exception de ceux qu'elle portait habituellement, très en vue sur son chiffonnier. Le système d'évasion adopté lui défendait de s'embarrasser de bagages, et cependant, un peu de linge lui devait être indispensable. Ayant réfléchi, elle ne vit pas d'inconvénient à se charger d'un léger sac de voyage qui lui venait de sa mère, et qui renfermait un petit nécessaire de toilette en or, véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Ses préparatifs terminés, elle écrivait à son père une longue lettre où elle lui expliquait les motifs de sa résolution désespérée. Puis elle attendit. La nuit depuis longtemps était venue, et les derniers apprêts d'une fête princière emplissaient l'hôtel de mouvements et de tapages. On entendait les pas affairés des valets, la voix des maîtres d'hôtel donnant des ordres, les coups de marteau des tapissiers clouant encore de ci et de là quelques tentures. Bientôt, retentit sur le sable de la cour le roulement sourd des voitures amenant les premiers invités. Désormais, ce n'était plus pour Mademoiselle Henriette qu'une question de minutes, et elle les comptait à sa montre avec d'effroyables battements de cœur. Enfin, les aiguilles marquèrent 10h moins le quart. D'un mouvement automatique, Mademoiselle Henriette se dressa. Elle jeta sur ses épaules un immense cachemire, et prenant son petit sac de voyage, elle s'échappa de son appartement et se glissa le long des corridors jusqu'à l'escalier de service. Elle allait sur la pointe du pied, retenant son haleine, l'œil et l'oreille au guet, prête à battre en retraite au moindre bruit suspect ou à se jeter dans la première chambre venue. Ainsi, sans encombre, elle descendit, arriva à l'entrée obscure de l'escalier et là, dans l'ombre, assise sur son petit sac, elle attendit, haletante, les cheveux trempés d'une sueur froide, les dents lui claquant dans la bouche de frayeur. Enfin, 10h sonnèrent et les vibrations de l'horloge n'étaient pas encore éteintes que le coupé de M. de Brévent parut. Assurément, son cocher était un habile homme. Feignant de n'être plus maître de son cheval, il le fit tourner sur place et le força de reculer avec une si adroite maladresse que la voiture alla donner contre le mur du fond, la portière de droite se trouvant juste en face de l'étroite entrée de l'escalier. Plus prompt que l'éclair, M. de Brévent sauta à terre. Mademoiselle Henriette s'élança d'un bond, personne ne vit rien. Et l'instant d'après, la voiture sortait au petit pas de l'hôtel de la Villaudrie, remontait la rue de Varennes et allait s'arrêter devant l'esplanade des Invalides. C'en était fait. En quittant la maison paternelle, Mademoiselle de la Villaudrie venait de briser le cadre des conventions sociales. Elle était à la merci des événements désormais, et selon qu'il lui serait favorable ou contraire, elle devait être sauvée ou perdue. Mais elle ne songeait pas à cela. Avec le danger d'être surprise, l'exaltation fébrile qu'il avait soutenue était tombée, et elle gisait anéantie sur les coussins quand la portière s'ouvrit brusquement et un homme se montra. Monsieur de Brévent. « Eh bien, mademoiselle, s'écria-t-il d'une voix étrangement troublée, nous l'emportons. Je viens de présenter mes hommages à la comtesse Sarah et à ses dignes acolytes. J'ai serré la main de monsieur de le comte de la Villaudry, personne n'a l'ombre d'un soupçon. » Et comme mademoiselle Henriette se taisait. « Maintenant, ajouta-t-il, je suis d'avis de ne pas perdre le temps, car il faut que je reparaisse le plus tôt possible au bal. Votre logis vous attend, mademoiselle, tout y est prêt, je vais, si vous le voulez bien, vous y conduire. » Elle se redressa et avec un grand effort. « Conduisez-moi, monsieur, dit-elle. » Déjà, monsieur de Brévent s'était élancé dans la voiture qui partit au galop. Et tant que dura le trajet, il expliquait à mademoiselle Henriette la façon dont elle aurait à se conduire dans la maison où il lui avait loué un logement. Il l'avait annoncée, disait-il, comme une de ses parentes de province qui avait éprouvé des revers de fortune et qui venait à Paris pour tâcher de trouver quelque petit emploi qui la fit vivre. « Souvenez-vous de ce roman, mademoiselle, recommandait-il, pour y conformer vos actions et vos paroles. Et surtout, gardez-vous de ne jamais prononcer le nom de votre père et le mien. Souvenez-vous que vous êtes mineur, qu'on vous cherchera activement et que la moindre indiscrétion peut mettre sur vos traces. » Puis, comme elle gardait le silence, pleurant, il voulut lui prendre la main, et c'est alors qu'il remarqua le petit sac dont elle s'était chargée. « Qu'est-ce que cela ? » interrogea-t-il d'un ton qui, sous une douceur affectée, trahissait un vif mécontentement. « Quelques objets de première nécessité. Emporteriez-vous donc vos bijoux malgré mes conseils ? Non, certainement, monsieur. » Cependant, cette persistante préoccupation de M. de Brévent finissait par la frapper, et elle lui laissait voir sa surprise si la voiture ne se fût brusquement arrêtée devant le numéro 23 de la rue de la Grange-Batelière. « Nous voici arrivés, mademoiselle, dit M. de Brévent. » Et sautant lestement à terre, il alla sonner à la porte de la maison qui s'ouvrit aussitôt. La loge des concierges était encore éclairée. M. de Brévent y marcha tout droit et l'ouvrit en homme qui connaît les êtres. « C'est moi, prononça-t-il. » Un homme et une femme, le portier et son épouse, qui sommeillaient à demi, le nez sur un journal, se dressèrent en sursaut. « Monsieur Maxime, firent-ils ensemble. « J'amène, poursuivit Monsieur de Brévent, la jeune parente que je vous avais annoncée, Mademoiselle Henriette. » Si Mademoiselle de la Villaudry eut la plus légère notion des mœurs parisiennes, rien qu'au salut du portier et à la révérence de son épouse, elle eut compris que sa bienvenue avait été largement payée. « La chambre de Mademoiselle est prête, dit l'homme. « C'est mon mari qui l'a appropriée, interrompit la femme, ce qui n'était pas une petite affaire après que les tapissiers ont été partis. » Et moi, à 5 heures, j'ai allumé un grand feu pour chasser l'humidité. Montons alors, fit Monsieur de Brévent. Mais les portiers du numéro 23 étaient gens économes, et depuis longtemps le gaz de l'escalier était éteint. Donne-moi un flambeau, Chevassa, dit la concierge à son mari. Et sa chandelle allumée, elle passa en avant, éclairant Monsieur de Brévent et Mademoiselle Henriette, s'arrêtant à chaque étage pour vanter la tenue de la maison. Enfin, au 5e étage, à l'entrée d'un étroit corridor, elle ouvrit une porte en disant: « Nous y sommes. Mademoiselle va voir comme c'est gentil. » Peut-être, en effet, était-ce gentil à ses yeux. Mais Mademoiselle Henriette, accoutumée aux splendeurs de l'hôtel de la Villaudry, ne put dissimuler un mouvement de stupeur. Cette chambre, plus que modeste, lui semblait un horrible taudis dont n'eût pas voulu la dernière de ses femmes de chambre. N'importe. Elle entra bravement, déposant son sac de voyage sur une commode et se débarrassant de son châle comme pour prendre possession du logis. Mais son impression première n'avait pas échappé à Monsieur de Brévent. Il l'attira jusque dans le corridor pendant que le concierge attisait le feu, et à voix basse. « Cette chambre est affreuse, » fit-il avec un léger sourire, mais la prudence m'obligeait à la choisir ainsi. « Telle qu'elle est, elle me plaît, monsieur. Beaucoup de choses vous moquez sans doute, mais demain nous aviserons. Pour ce soir, je suis obligé de vous quitter, vous le savez. Il est important qu'on me voie cette nuit à l'hôtel de la Villaudry. Vous avez raison, monsieur, partez, partez vite. » Cependant, il ne voulut pas s'éloigner sans avoir encore une fois recommandé chaudement sa jeune parente à la Chevassa. Et c'est seulement quand elle lui eut affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait besoin de rien qu'il sortit, suivi de la digne portière. Aux terribles convulsions qui depuis 48 heures secouaient Mademoiselle Henriette, un étonnement immense succédait, stupeur du fait accompli et irrévocable. Un événement était survenu dans sa vie, plus considérable, plus inouï qu'un déplacement de montagne. Et debout, devant la cheminée, elle considérait dans la petite glace son visage pâli, répétant à demi-voix « C'est moi, c'est bien moi. » Oui, c'était bien elle, la fille unique du comte de la Villaudry qui était là, dans cette maison inconnue, dans cette chambre du cinquième étage devenue la sienne. C'était bien elle, hier encore, entourée des recherches au Nalux princier, servie par une armée de valets qui se trouvaient là, dénuée des choses les plus indispensables, n'ayant de service à attendre que de cette vieille portière à qui M. de Brévent l'avait recommandée. Était-ce possible? Était-ce seulement croyable? Elle-même avait peine à se convaincre de la vraisemblable vérité. Elle n'éprouvait d'ailleurs nul repentir de ce qu'elle avait fait. Pouvait-elle demeurer plus longtemps près de son père en butte aux outrageantes brutalités du plus vil des hommes? Évidemment non. Mais à quoi bon revenir sur le passé, murmura-t-elle, secouant la torpeur qui l'engourdissait. Je dois me défendre d'y penser. Et pour occuper son esprit, elle se leva et se mit à reconnaître et à inventorier sa nouvelle demeure. C'était d'un de ces logements dont jamais les propriétaires ne s'occupent, où la plus légère réparation leur semblerait ridicule tant ils sont sûrs de les louer quand même et telles quelles. Le carreau, jadis mis en couleur, s'émiettait, et nombre de briques branlées dans leur alvéole de ciment. Le plafond crevassé s'écaillait, tout maculé le long des murs de traces de chandelles. Le papier d'un gris sale et gras, misérablement éraillé, gardait l'empreinte de tous les locataires qui s'étaient succédés depuis qu'il avait été posé. Le mobilier était d'ailleurs digne du logis. Un lit de noyer, drapé de rideaux de perse fanée, une commode, une table, deux chaises et un méchant fauteuil le constituaient. Devant la fenêtre, un rideau trop court pendait. Il y avait devant le lit un mauvais tapis, et sur la cheminée une pendule à sujet en zinc doré entre deux vases de verre bleu. Rien de plus. Comment M. de Brévent avait-il pu choisir pour la recevoir un pareil réduit? Voilà ce que ne s'expliquait pas nettement Mademoiselle Henriette. Il lui avait dit, et elle le croyait, que les plus excessives précautions étaient nécessaires. Mais eût-elle été beaucoup plus compromise et bien plus en danger d'être retrouvée par la comtesse Sarah si on eût arrangé le papier, caché le carreau sous un modeste tapis de feutre et emménagé des meubles un peu plus confortables? Cependant, elle ne concevait pour cela nul soupçon, pas plus qu'elle n'en avait conçu pendant la soirée qui venait de s'écouler, en remarquant les façons étranges de M. de Brévent. Mais que lui importait ce logement? Elle ne devait faire qu'y passer, espérait-elle, et l'étroite cellule d'un couvent eût été, pensait-elle, plus triste encore. Et tout était préférable à la maison paternelle. Ici, du moins, se disait-elle, j'aurais le calme et le repos. Repos moral, peut-être, car pour l'autre, il ne devait pas tarder à être étrangement troublé. Accoutumée au silence profond des vastes appartements de l'hôtel de la Villaudrie, Mademoiselle Henriette n'avait même pas idée du mouvement continuel de ces derniers étages des maisons de Paris, où s'entasse et s'agite la population d'un hameau, où les locataires, séparés par de minces cloisons, vivent pour ainsi dire les uns chez les autres. Dormir dans de telles conditions exige une longue habitude, et l'apprentissage ne devait pas peu coûter à la pauvre jeune fille. Il était plus de 4 heures quand, brisée de lassitude, elle s'endormit d'un si pesant sommeil qu'il ne fut pas troublé par le vacarme matineux de cette ruche humaine. Il faisait grand jour quand elle s'éveilla, et un pâle rayon du soleil d'hiver glissait à travers ses rideaux, la pendule de zinc décorée marquait midi. Elle se leva et se hâta de s'habiller. La veille encore, lorsqu'elle s'éveillait, elle sonnait, et sa femme de chambre accourait qui s'empressait d'allumer le feu, de lui présenter ses pantoufles, de jeter sur ses épaules un peignoir bien chaud, tandis que, désormais, ce souvenir devait reporter sa pensée vers l'hôtel de la Villaudrie. Qu'y faisait-on à cette heure? Son évasion certainement était découverte. On avait dû dépêcher les domestiques dans toutes les directions. Son père, très probablement, était allé demander l'assistance de la police. Elle eut un mouvement de joie de se sentir si bien cachée, et promenant un regard autour de sa chambre, plus misérable encore au jour qu'à la lumière. « Non, jamais on ne viendra me chercher ici, » murmura-t-elle. Cependant, elle avait trouvé un tas de bois près de la cheminée, et comme il faisait froid, elle s'occupait à allumer du feu quand on frappa à sa porte. Elle ouvrit, et Madame Chevassa, la portière, apparut. « C'est moi, ma jolie demoiselle, » dit-elle dès le seuil. « Ne vous voyant pas descendre, je me suis dit, il faut que je monte voir. Et vous avez bien dormi ?»« Très bien, madame, je vous remercie. Allons, voilà qui est bon. Et cet appétit ?»« Car c'est pour cela aussi que je suis montée. Est-ce que vous ne songez pas à manger un morceau ?» Non seulement Mademoiselle Henriette y songeait, mais elle avait faim. Car il n'est pas d'événement qui tienne, d'aventure, d'émotion ni de chagrin. La tyrannie des besoins matériels est plus forte que tout. « Je vous serai obligée, madame, » dit-elle, « si vous vouliez bien me monter à déjeuner. »« Si je le veux, plutôt 2 fois qu'une, ma jolie demoiselle. Le temps de cuire un œuf et de griller une côtelette, et je suis à vous. » Revêche d'ordinaire et plus aigre que verjue, la Chevassa avait mis dehors tout ce qu'elle avait d'amabilité, se grimant d'une bonhomie douceâtre, voilant de sensibilité l'éclat inquiétant de ses petits yeux gris. Hypocrisie bien inutile. L'effort qu'elle s'imposait était trop manifeste pour ne pas éveiller les pires défiances. « Assurément, » pensait Mademoiselle Henriette, « c'est là une méchante femme. Ses soupçons ne firent que redoubler quand la digne portière reparut, lui apportant son déjeuner qu'elle dressa sur la petite table devant le feu, avec toutes sortes d'obséquiosités serviles. « Vous allez voir comme tout ce que je vous ai préparé est bon, mademoiselle, » disait-elle. Puis, tandis que mademoiselle Henriette mangeait, elle s'établit sur une chaise près de la porte, discourant avec une intarissable volubilité. À l'entendre, la nouvelle locataire devait bénir son bon ange qui l'avait conduite dans cette maison de la rue de la Grange-Batelière, servie par des concierges tels que son mari et elle. Lui, la crème des hommes. Elle, véritable trésor pour l'obligeance, la douceur et la discrétion. Maison exceptionnelle, ajoutait-elle, quant au choix des locataires. Tous gens d'une honorabilité notoire, depuis les vieilles rentières du premier étage, jusqu'au brocanteur du quatrième, le père Raminet, sans en excepter les jeunes dames qui occupaient les petits appartements du fond de la cour. Puis, ayant passé tout son monde en revue, elle entamait l'éloge de M. de Brévent, qu'elle appelait M. Maxime. Il lui avait plu tout d'abord extraordinairement, déclarait-elle, quand il s'était présenté l'avant-veille pour arrêter un logement. Jamais elle n'avait encore rencontré un homme si comme il faut, si aimable, si poli et si généreux. Et expérimentée comme elle l'était, elle avait discerné tout de suite un de ces êtres charmants qui semblent créés et mis au monde pour inspirer les plus violentes passions. Du reste, ajoutait-elle avec un équivoque sourire, sa sympathie pour sa jolie locataire n'était pas moins vive, à ce point qu'elle s'estimerait heureuse de se dévouer pour elle sans espoir de récompense. Ce qui n'empêche que mademoiselle Henriette ayant fini de déjeuner. « C'est 2 francs que vous me devez, mademoiselle, déclara-t-elle. Et si cela peut vous être agréable, je me charge, moyennant 5 francs par jour, de vous nourrir très bien. » Et vivement, elle entreprit de prouver que ce serait de sa part pure obligeance, car à ce prix, et vu la cherté de toute chose, elle perdrait assurément. Mais mademoiselle Henriette ne la laissa pas continuer. Ayant tiré de sa bourse une pièce de 20 francs, « Payez-vous, madame, prononça-t-elle. » Évidemment, ce n'était pas là ce qu'attendait l'estimable portière, car elle recula d'un air offensé. « Pour qui donc me prenez-vous, mademoiselle ? » protesta-t-elle. « Me croyez-vous capable de vous réclamer quelque chose ?» Et haussant les épaules, « Est-ce que vos dépenses d'ailleurs ne regardent pas M. Maxime ?» Sur quoi, elle ramassa vivement le couvert et se retira. Mademoiselle Henriette ne savait que penser. Qu'à travers toutes ces paroles oiseuses, cette louche mégère poursuivait un but, c'est ce dont elle ne pouvait douter, encore qu'elle ne discerna nullement lequel. Et cependant, ce n'était pas là ce qui arrêtait sa pensée. Ce qui l'épouvantait, c'était de se sentir si absolument à la merci de M. de Brévent. En tout et pour tout, elle possédait environ 200 francs, et elle était dénuée de tout. Et les objets les plus indispensables lui manquaient, et elle n'avait ni une robe ni un jupon de rechange. Comment M. de Brévent n'avait-il pas prévu cela? Attendait-il donc qu'elle lui exposât sa détresse et qu'elle lui demandât de l'argent? Véritablement, elle ne pouvait l'imaginer, et elle attribue cet oubli à son trouble, se disant qu'il n'allait pas tarder à arriver sans doute pour s'informer d'elle et se mettre à sa disposition. Cependant, la journée s'écoula lentement, et la nuit vint sans qu'il y parût. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel événement extraordinaire était survenu? Quel malheur l'avait frappé? Dévorée d'indicibles angoisses, mademoiselle Henriette fut 10 fois sur le point de courir jusque chez lui. Le lendemain seulement, sur les 2 heures, il se présenta, affectant un ton dégagé mais visiblement embarrassé. S'il n'était pas venu la veille, déclara-t-il, c'est qu'il savait, à n'en pas douter, que la comtesse Sarah le faisait surveiller. La fuite de mademoiselle de la Ville-Audry était l'événement de Paris, et on le soupçonnait d'y être pour quelque chose. On ne le lui avait pas caché, disait-il, à son club. Même, il ajouta que prolonger sa visite serait imprudent, et il se retira sans avoir rien dit à mademoiselle Henriette, sans paraître s'apercevoir de son dénuement. Et ainsi, durant 3 jours, il ne fit pour ainsi dire qu'apparaître. Il arrivait, profondément troublé, comme s'il eut quelque chose de très important à dire, puis son front se rembrunissait et il se retirait brusquement, sans avoir rien dit. Incapable de supporter davantage une si atroce incertitude, torturé de doutes épouvantables, mademoiselle Henriette était résolue à provoquer une explication quand le 4e jour, M. de Brévent arriva, enflammé, ce n'était que trop aisé à voir, de quelque détermination terrible. Sitôt entré, il donna un tour de clé à la porte d'une voix rauque. « Il faut que je vous parle, mademoiselle, déclara-t-il. « Oui, il le faut absolument. » Il était livide. Ses lèvres blanches tremblaient et ses yeux brillaient d'un éclat effrayant, comme ceux d'un homme qui eût demandé aux liqueurs fortes le courage qui lui manquait. « Je vous écoute, monsieur, » fit la jeune fille toute frissonnante. Il eut un mouvement encore d'hésitation, puis surmontant d'un puissant effort toutes ses répugnances. « Eh bien donc, » reprit-il, « je vous demanderai si jamais vous n'avez soupçonné quelle raison j'avais d'aider votre évasion. » « Je pense, monsieur, que vous n'avez consulté que votre pitié et aussi le souvenir de votre amitié pour M. Daniel Chancé. »« Non, ce n'est pas cela. » Instinctivement, elle recula en prononçant seulement « Ah !» De blême qu'il était, M. de Brévent était devenu plus rouge que le feu. « Vous n'avez donc rien vu » prononça-t-il. « Vous n'avez donc pas compris que je vous aime ?» Elle pouvait tout concevoir, la fortunée, excepté cela. Excepté cette infamie inouïe, cette insulte suprême. « Monsieur de Brévent était-il donc ivre ou fou ?»« Retirez-vous, monsieur, commanda-t-elle d'une voix vibrante d'indignation. » Mais il s'avançait, les bras ouverts. « Oui, je vous aime éperdument, poursuivit-il. Et depuis longtemps, depuis le premier jour que je vous ai vu. » Déjà, d'un mouvement rapide, mademoiselle Henriette avait ouvert la fenêtre. « Un pas de plus, fit-elle, et je crie au secours. » Il s'arrêta, échangeant de ton. « Ainsi vous me repoussez, ajouta-t-il. Qu'espérez-vous donc, le retour de Daniel? Ignorez-vous donc qu'il adore la comtesse Sarah? Ah, vous abusez impudemment de ma détresse, interrompit la jeune fille. Et comme il insistait encore, « Mais sortez donc, lâche, cria-t-elle, sortez donc, misérable, ou j'appelle !» Effrayé, il recula jusqu'à la porte qu'il ouvrit, mais avant de sortir, « Vous me repoussez aujourd'hui, prononça-t-il en ricanant, mais avant un mois, vous me rappellerez. Vous êtes perdu, et seul, je puis vous sauver. »